Aujourd'hui, étant donné que nous sommes la semaine avant Pâques, j'ai choisi de parler de l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'est pour ça qu'on appelle ce dimanche le dimanche des rameaux, parce que tout le monde portait des rameaux dans leurs mains pendant que Jésus entrait. Quand j'ai commencé à penser aux entrées dans notre société, je me suis dit, nous on n'a pas des entrées triomphales dans les villes de même. Nos politiciens ne vont pas faire ça, on ne va pas voir Justin Trudeau rentrer à Ottawa comme en triomphe. Mais je me suis rendu compte, qu'est-ce qui se passerait ici si les Canadiens gagnaient la Coupe Stanley? Je sais que c'est assez irréaliste en ce moment, je suis désolé. Mais si les Canadiens gagnaient, on aurait une grande entrée triomphale, on aurait une grande défilée, des milliers de personnes. On peut aussi penser aux vedettes de films, comment à chaque nouvel film qui sort, on déroule le tapis rouge et les acteurs passent et tout le monde est célèbre. Donc, on n'a pas exactement le même concept, mais on connaît le concept. Aujourd'hui, nous allons étudier Luc, chapitre 19, versets 28 à 44. Donc, Luc 19, versets 28 à 44. J'ai choisi Luc à la place de Marc ou Matthieu ou Jean, c'est parce que Luc m'est plus familier. Donc, j'ai étudié plus dans ma vie. Et ils sont tous assez semblables. Donc, avant de lire le texte et commencer, prions ensemble. Merci Seigneur que tu nous as donné ta parole. Merci aussi que tu nous as donné Jésus, que ton Fils, qui est Dieu lui-même, s'est incarné, s'est venu à terre, pour nous sauver. Merci Seigneur qu'on peut apprendre des choses à propos de lui. Je te prie qu'aujourd'hui, tu sois glorifié dans ma prédication. Au nom de Jésus, amen. Donc, dans notre texte, Jésus arrive à Jérusalem. Dans l'Évangile de Luc, Jésus a commencé son voyage vers Jérusalem dans le chapitre 9. Donc, Luc chapitre 9, verset 51 dit, « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. » Alors, comme relativement tôt dans le livre, Jésus se tourne vers Jérusalem. Il arriva pour la semaine de Pâques, la fête où les Juifs célébraient le moment où Dieu arriverait les Israélites d'Égypte. Au premier Pâques, les Israélites devaient tuer un agneau et mettre son sang par-dessus leur porte, afin d'être protégés de l'ange de Dieu. Mais Jésus sait que ce Pâques, c'est lui, l'agneau. Jésus sera sacrifié pour protéger son peuple de la colère de Dieu. Alors, il se tourne la face vers Jérusalem, mais chaque pas devait être lourd, parce qu'il savait qu'en se tournant vers Jérusalem, il allait vers sa mort. Donc, son voyage de Jérusalem continue de chapitre 9 jusqu'à chapitre 19. Dans chapitre 13, il mentionne que Jésus continue vers Jérusalem. Et dans chapitre 17, il dit, « Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre Samarie et la Galilée. » Donc, on voit que tout ce voyage continue. Et dans le chapitre précédent, notre chapitre, chapitre 18, il dit à ses disciples, « Voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après avoir battu des verges, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais ils, les disciples, ne comprirent rien à cela. Alors Jésus se rendit à Jérusalem en connaissant ce qui l'attendait. Et finalement, dans le chapitre 19, il y arrive. Donc, lisons le texte ensemble. Luc 19, versets 28 à 44. Donc, après avoir ainsi parlé, Jésus prit les devants et monta vers Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Bethanie, verrement appelé Mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entré, vous trouverez un anan attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui direz, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anan, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anan? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anan, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et ils firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Ils rapprochaient déjà de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers. Lorsque tous les disciples, en foule, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule disaient, « Dire à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres rieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en le voyant, pleura sur elle et dit, « Si tu connaissais, toi aussi, en ce jour, ce qui te donnerait la paix. Mais maintenant, c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne resteront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Donc, la première chose que nous voyons dans le passage, quand on regarde, c'est que Jésus est très intentionnel dans la façon qu'il fait son entrée. Certains passants vont dire que Jésus était simplement un bon enseignant qui était emporté par les circonstances. Ils prétendront que Jésus ne voulait pas être reconnu comme le Messie, le Fils de Dieu, et que le fait que tout le monde le célébrait était une surprise pour Jésus. Mais Jésus ne fait pas ça ici. Jésus ne fait pas son entrée par accident. C'est lui qui envoie ses disciples pour chercher un anan pour lui-même. Il sait qu'il serait célébré en entrant. Et il fait tout ça intentionnellement. Alors, pourquoi est-ce qu'il a choisi un anan? Pourquoi pas un beau cheval ou un grand chariot? Qu'est-ce qu'un anan voudrait dire? Luc ne nous l'explique pas spécifiquement, mais dans le texte parallèle de Matthieu, Matthieu cite Zacharie, chapitre 9, verset 9. Alors, pour trouver l'explication, tournons vers Zacharie, chapitre 9, versets 9 et 10 ensemble. C'est un des petits prophètes vers la fin de l'Ancien Testament. C'est juste avant Malachie. Alors, Zacharie, chapitre 9, versets 9 et 10. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Lance tes clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi. Il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un anan, le petit d'un ânesse. Je retrancherai d'Éphraïm les chars et de Jérusalem les chevaux. Les arcs de guerre seront retranchés. Il parlera de paix aux nations et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre. Alors, Jésus vient à Jérusalem en son anan parce qu'il vient en tant que son roi. Il sait qu'il se déclare roi des Juifs en faisant un choix très spécifique d'un anan. Il proclame qu'il est le roi qui va amener la paix à Jérusalem. Et maintenant, Jésus s'approche de Jérusalem. Et on voit que ses disciples commence à le célébrer. Et si vous avez grandi dans l'école de dimanche, c'est ici le moment qu'on est dans ce passage. Que tous les disciples louaient Dieu pour les miracles qu'ils faisaient à travers Jésus. Ils mettaient leur manteau sur la rue devant Jésus et ils chantaient. Nous ne mettons pas nos manteaux à terre pour des gens au Canada d'habitude, pas ce que j'ai vu, mais c'est assez clair qu'est-ce que ça veut dire. c'est un signe d'honneur. C'est comme dire, mon manteau est mieux utilisé en protégeant tes pieds de la poussière qu'en me gardant chaud. Jésus est fêté ici comme un roi qui entre dans sa ville. Les disciples disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Et honore Jésus comme le roi que Dieu a choisi. Les pharisiens comprenaient très clairement l'honneur que les disciples faisaient Jésus. C'est pour ça qu'ils demandent que Jésus arrête les disciples qui les fait taire, parce qu'ils comprennent qu'ils sont en train de croire comme Jésus, que Jésus est le roi. Donc, qui sont ces pharisiens? Si vous avez lu les évangiles ou si vous avez grandi dans l'Église, vous avez peut-être l'impression que les pharisiens sont juste des méchants qui étaient seulement là pour faire du trouble. Mais pour les Juifs à l'époque, les pharisiens étaient en fait très respectés. Ils étaient un groupe de gens qui voulaient suivre la loi de Moïse très fidèlement. Ils croyaient que la raison pourquoi leur pays était gouverné par l'Empire romain, c'était parce que Israël ne suivait pas les commandes de Dieu. Alors, ils essayaient de suivre les commandes de Dieu afin d'attirer la faveur de Dieu sur leur nation. Ça semble être une bonne chose. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont perçus comme des méchants? Pourquoi est-ce que Jésus ne les aime pas? Premièrement, Jésus voyait que certains pharisiens suivaient la loi juive, non pour plaire à Dieu, mais pour impressionner les autres. Les pharisiens avaient tendance à être des hypocrites. Et deuxièmement, Jésus ne les aimait pas parce qu'ils ne reconnaissaient pas qui Jésus était. Ils étaient les personnes qui étaient censées mieux connaître l'Ancien Testament que tous les autres. Mais ils ne comprenaient pas que Jésus était le Messie. En plus, ils haïssaient Jésus et voulaient le tuer. Ils n'ont pas été capables de le tuer jusqu'à plus tard, à cause des foules comme celui-là, qui célébraient Jésus et qui rouaient. Il était trop populaire. Alors, les pharisiens veulent que Jésus arrête les célébrations de ses disciples. Mais Jésus dit, « S'ils arrêtent, les roches vont crier. » Quelle audace! Imagine si après la célébration, on dit à Benjamin, comme, « Ah, tu as vraiment bien fait le son aujourd'hui, Benjamin. » Et il dit, « Merci de le dire, mais... » Si toi, tu ne l'avais pas dit, le micro aurait dit. Comme, quoi? Qui est-ce que tu penses que tu es? Donc, c'est la même chose pour Jésus. On est forcé à se poser la question quand tu dis des choses de même. Qui est-ce qu'il pense qu'il est? Il pense vraiment qu'il mérite d'être célébré comme un roi et quasiment comme Dieu lui-même. J'avais dit tantôt que le fait que Jésus se présente intentionnellement comme roi contredise l'idée que ce soit seulement un bon enseignant ou juste un bon gars que l'Église a glorifié après sa mort. Et encore, nous voyons que Jésus nous confronte, comme il confrontait les pharisiens. Nous devons reconnaître soit que Jésus est roi et messie, ou qu'il était juste complètement enivré de lui-même et peut-être même cinglé. Il n'y a pas de troisième voie. Alors, tout se passe bien. C'est une bonne entrée dans la ville. Les disciples célèbrent Jésus. Il est honoré comme roi. Il rentre dans la ville. Et il pleure. Quoi? Jésus pleure? Pourquoi? Jésus pleure, les versets 41 et 44 nous disent, parce qu'il sait que son entrée n'est pas si triomphale qu'il devrait l'être. Jésus est le Messie, le roi choisi par Dieu pour sauver Israël. Et Jérusalem, c'est la ville de David, le centre d'Israël. Le temple de Dieu est à Jérusalem. C'est le cœur de la nation et l'assiège du roi. C'est la place qui devrait reconnaître Jésus. Et en plus, Jésus n'est pas simplement le Messie et le vrai roi d'Israël. Nous voyons dans le reste du Nouveau Testament que Jésus est Dieu lui-même, la deuxième personne de la Trinité, l'unique Fils du Père. Et il est physiquement venu à son peuple. Dieu promettait tout le long de l'Ancien Testament qu'il allait être avec les Israélites. Et maintenant, dans Jésus, il a accompli sa promesse. Mais son peuple ne le reconnaît même pas. Jésus pleure parce qu'il a compassion pour Jérusalem. Jérusalem le rejette. Jésus sait que Jérusalem va recevoir le châtiment qu'il mérite pour avoir rejeté Jésus. Alors, il pleure. Plus tôt dans Luc, dans le chapitre 13, Jésus a dit à propos de Jérusalem, « Il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. » Car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu ramasser tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous serait laissée. Mais je vous le dis, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui sont envoyés. Jésus pleure sur Jérusalem parce que la ville qui était censée l'accueillir le rejette. Il vient à Jérusalem non pour régner à Jérusalem, mais pour mourir. Et il pleure parce qu'il sait qu'est-ce que Jérusalem va recevoir. Jésus dit que la ville sera détruite par des envahisseurs. Et seulement 40 ans plus tard, dans l'année 70, les Romains vont détruire Jérusalem. La ville au cœur d'Israël serait anéantie. Jérusalem rejette leur roi quand il vient, alors elle aussi sera rejetée. Donc, nous voyons que Jésus vient à Jérusalem en tant que roi et qu'une foule le célèbre, mais qu'il rentre avec le cœur lourd, parce qu'il sait que bientôt, à Pâques, une autre foule, peut-être même avec les mêmes personnes dedans, criera « Crucifie-la ». Son entrée, ce n'est pas vraiment triomphal, c'est plus un moment triste et ironique. Mais heureusement, ce n'est pas la fin de l'histoire. On pourrait bien terminer la prédication là et vous dire de revenir le dimanche prochain pour le reste de l'histoire, mais je ne vais pas le faire. Nous allons plutôt se poser une question. Pourquoi est-ce que Jérusalem et par extension Israël avaient besoin de Jésus? Pourquoi est-ce que Jésus avait besoin de venir à Jérusalem? Les disciples qui étaient avec Jésus ce jour-là auraient probablement dit, parce que Dieu a promis de libérer Israël de ses ennemis et de rétablir comme une nation puissante où Dieu est honoré par son peuple. Israël, à cette époque, était sous la domination de l'Empire romain. Le peuple d'Abraham, Isaac et Jacob était gouverné par des païens qui adoraient toutes sortes de dieux après d'honorer le vrai Dieu. Et c'est vrai que Dieu avait promis cela, qu'il sauverait sa nation. Mais Israël n'avait pas vraiment besoin d'être sauvé des Romains. Le vrai problème d'Israël n'était pas les Romains. Le vrai problème d'Israël, c'est le péché. Israël ne pouvait pas rester fidèle à Dieu. Comme Jésus dit, Israël tuait les prophètes de Dieu. Israël n'écoutait pas la parole de Dieu. À Jérusalem, Dieu n'était pas fidèlement honoré. Et tout au long de l'Ancien Testament, le peuple d'Israël désobéissait à Dieu. Alors, Jérusalem n'avait pas besoin de Jésus pour qu'il vienne chasser les Romains. Jérusalem avait besoin d'un changement de cœur pour qu'elle ne tue pas les prophètes, mais qu'elle aime Dieu à la place. Nous aussi, nous avons besoin de la même chose. Nous n'avons pas besoin d'un salut physique. On n'a pas besoin d'une meilleure santé ou d'un meilleur emploi ou d'une vie heureuse. Nous avons besoin d'être pardonnés, changés et réconciliés avec Dieu. Jésus a choisi de mourir à Jérusalem. Il est mort à la place de tous ceux qui mettront leur foi en lui. Il est mort comme sacrifice pour les péchés du monde. Dieu doit punir les péchés. Il ne peut pas ignorer les péchés, il doit le juger. Mais Jésus prend la colère de Dieu, la juste punition pour nos péchés, dans sa mort. Il prend la place de chaque personne qui croit en lui. Parce que Jésus est mort à Jérusalem, nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Le problème de péché est réglé par sa mort. Et comme nous célébrons à Pâques, Jésus n'est pas resté mort, il est ressuscité. Alors, nous appelons des fois à rentrer de Jésus à Jérusalem, rentrer triomphale, mais je ne crois pas que c'est vraiment si triomphale que ça. Mais je crois qu'il y a une autre entrée dans la Bible qui est beaucoup plus triomphale. Alors, tournons à Apocalypse 21, versets 1 à 4. Nous allons lire ensemble. Un homme, Jean, écrit dans l'Apocalypse les visions des fins du temps que Dieu remontre. Et ici, il voit toute une entrée. Donc, c'est l'avant-dernier chapitre dans la Bible, Apocalypse 21. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il respirera toute l'âme de leurs yeux. La mort n'y sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Dans l'Apocalypse, l'entrée, ce n'est pas l'entrée de Jésus dans le Jérusalem, c'est l'entrée de Jérusalem elle-même sur la nouvelle terre et le nouveau ciel. Le monde a été recréé et maintenant il y a une nouvelle Jérusalem où Dieu vivra avec son peuple. Et son peuple est non seulement les Israélites, mais chaque personne qui a placé sa foi en Jésus pour le pardon de ses péchés. Comme le reste de l'Apocalypse, c'est un récit très symbolique. Je ne sais pas si une ville physique va descendre sur la terre, mais le point est que notre espérance n'est pas que Jérusalem physique sera rebâtie. Plutôt, il y aura une nouvelle Jérusalem qui sera en même temps l'habitation de Dieu. Quand Jésus reviendra, si nous sommes ses disciples, nous serons avec lui pour l'éternité. Il prendra soin de nous et nous aurons la joie et la paix avec lui. Je pense que quand vous entendez le retour entrée triomphale, fait peut-être maintenant penser non seulement à la rentrée de Jésus, mais à la rentrée finale de Jérusalem sur terre quand Jésus revient. Alors, qu'est-ce que nous apprenons de ce texte dans Luc? Premièrement, nous apprenons que Jésus est en contrôle. Tout le long de ce texte, nous voyons qu'il sait exactement ce qui se passe et qu'il reprend le fil. Il va à sa mort, il le sait, mais il mourra par son choix pour nos péchés, et il sera ressuscité. Maintenant, Jésus règne sur tout l'univers, et un jour, il reviendra, et fera une vraie entrée triomphale avec une nouvelle Jérusalem pour être avec nous. Si vous vivez des expériences difficiles dans votre vie, ce n'est pas parce que Jésus n'est pas en contrôle. Il est en contrôle, et il utilisera les circonstances de votre vie pour sa gloire et pour notre bien. Deuxièmement, nous apprenons que Jésus est miséricordieux. Il a de la compassion. Nous le voyons quand il pleure sur Jérusalem. Il veut que Jérusalem se tourne à lui pour qu'elle soit guérie, pour qu'elle aille la paix. Il ne veut pas que Jérusalem périsse. Également, Jésus reviendra pour juger le monde. Il jugera chaque personne pour leurs actions, qu'ils soient bons ou mauvais. Nous savons que nous sommes loin d'être parfaits. Alors, nous méritons le jugement de Dieu, comme Jérusalem. Mais même si nous savons que Jésus va revenir juger, Jésus a compassion. Même s'il va juger, Jésus a compassion. Il ne va pas apprécier de faire le jugement. Il veut que tout le monde tourne. Il veut que tout le monde répande. Il va juger, mais il a de la miséricorde et compassion. Il ne veut pas que Jérusalem ni nous soient détruits. Donc, grâce à la miséricorde de Jésus, nous pouvons être sauvés. Alors, repentons-nous et comptons sur la grâce et la compassion de Jésus. Troisièmement, avec l'approche de Pâques la semaine prochaine, nous allons célébrer la victoire de Jésus par sa résurrection. Mais n'oublions pas non plus la souffrance que Jésus a acceptée avant d'être ressuscité. Il savait pendant tout son trajet vers Jérusalem qu'il allait à sa mort. Il savait que les fous qui l'accamaient changeraient en fous qui le condamnaient. Il savait que les disciples qui le louaient, comme roi, l'abandonneraient dès qu'il était condamné. Mais il a quand même continué afin de faire le sacrifice ultime pour nous. Alors, quand nous pensons à rentrer de Jésus à Jérusalem, rappelons-nous l'autorité de Jésus, la compassion de Jésus et son sacrifice à la croix. Grâce à cela, un jour, Jésus fera une vraie entrée triomphale. Prions. Merci Seigneur Jésus que tu es venu pour régler notre vrai problème. Par gros pression physique, pas des empires, mais le vrai problème, c'est que on est des pécheurs, qu'on ne t'aime pas, qu'on n'aime pas les autres, et qu'on a besoin d'être pardonné et réconcilié avec toi. Merci Seigneur Jésus, que tu as eu compassion sur nous, que tu es venu mourir pour nos péchés, afin qu'on puisse être réconcilié avec Dieu, et qu'il soit ressuscité pour qu'on puisse vivre éternellement avec toi. Seigneur, je te prie que dans la semaine prochaine, tu nous aides à rafraîchir sur ces choses-là, et que le temps de Pâques soit un temps où nous apprenons à t'aimer de plus en plus et de vivre comme tu veux. Au nom de Jésus. Amen.